Alors on va être en... C'est bien d'être en petit comité, comme ça on pourra mieux échanger. C'est la première fois qu'on nous donne un exercice comme ça à traiter, en rentrant dans la question de la famille, sur la question de la joie. Et je trouve que c'est une très belle clé d'entrée. Alors effectivement, peut-être qu'on se présente d'abord rapidement, mon amour.
Oui, vas-y, tu veux que je te fasse?
Vas-y.
Alors, on a 27 ans de mariage, je ne me trompe pas. 5 enfants, mais effectivement, ils sont grands. Donc, entre 18 et 26, tous les 2 ans, il y en a une de mariée, 2 petits-enfants. Ils sont tous étudiants et tous partagent la foi, grâce à Dieu. Ils sont tous engagés dans l'Église à différents niveaux. Il y en a 2 à Pointe-Coeur, une à Rome, et un en Ukraine, un aux États-Unis et 2 en France. Voilà. Donc c'est aussi grâce à ça qu'on a la liberté d'avoir un peu plus de temps pour la mission, mais on travaille tous les deux. Alex est consultant, je travaille avec lui et on travaille aussi pas mal pour l'Église. On est responsable aussi de la pastorale familiale sur notre diocèse et on fait des missions auprès des jeunes et des couples depuis 9 fiançailles. Donc ça doit faire 28 ans ou presque 30 maintenant. Voilà. Voilà. On a participé aussi à la fondation de l'école Jeunesse Lumière pendant les 3 premières années de notre mariage.
Je ne connais pas.
Donc c'est une école de prière et d'évangélisation qui a été fondée par le père Daniel Ange.
Qui a à peu près le même âge que la communauté chez Nazareth.
Voilà. C'est pour ça qu'on avait d'ailleurs rencontré la communauté au tout début, dès les fondations, puisque on a envoyé un certain nombre de jeunes ici, accompagnés.
Voilà. Sur ce thème de la joie, on a joie en famille, c'est quelque chose qui est, c'est vrai, souvent associé à la famille. Quand on pose la question à des personnes dans la rue, c'est quoi pour vous le signe fort de la joie? C'est la joie, c'est le bonheur. Et quel est le signe du bonheur? C'est vrai, souvent c'est associé à la famille. C'est associé à la famille, c'est associé à une relation conjugale forte, amoureuse, intense. Donc voilà, c'est souvent le signe, c'est pas un signe chrétien, mais très très humain. C'est vrai que la famille, c'est associé à la joie. Alors soit qu'on a eu une famille qui a pu vivre des difficultés, etc. Mais on associe la famille, normalement c'est le lieu de la joie, c'est le lieu de la spontanéité, la relation, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très ancré, je crois, indépendamment qu'on soit chrétien ou pas chrétien. Nos contemporains, les gens aujourd'hui, au niveau de leurs souvenirs, au niveau de leur projet, ils associent le couple, la famille, à la joie. Quand on demande aux jeunes quel est votre projet de vie, 85% des jeunes, croyants ou incroyants, disent ce que nous désirons, c'est rencontrer un homme, une femme, un garçon, une fille, avec qui on va pouvoir se marier, avoir des enfants, vivre ensemble toute notre vie, être fidèles, et voir nos enfants grandir et nos petits-enfants. Voilà, c'est quelque chose qui est assez universel. Enquête à niveau européen, quasiment 9 jeunes sur 10, c'est leur projet de vie. Et ça devance les projets de travail, de vie sociale, d'argent, etc. C'est vraiment la chose la plus importante. Donc ça veut dire que c'est notre aspiration de bonheur, elle est là. Voilà, c'est vraiment une attente très, très importante chez nos contemporains. Donc la joie est associée au couple, est associée à la famille. Et c'est donc, c'est notre projet de bonheur. Maintenant, c'est vrai que ce projet de joie, ce projet de bonheur, il est quand même sacrément contredit par la réalité, par l'expérience que vit notre société. Quelques chiffres très rapidement. Il y a aujourd'hui un divorce pour 2 mariages. C'est quand même très impressionnant. Et ce chiffre, bien sûr, se dégrade d'année en année. Alors, plus aussi les statistiques peut-être qui ne sont pas connues, c'est qu'aujourd'hui, sur un couple, qui est un jeune couple, qui va pas le couple qui va changer tous les soirs ou toutes les semaines, enfin de partenaire, mais vraiment un couple sérieux, qui veut vraiment construire une vie conjugale ensemble, avoir des enfants, etc. La projection, qu'on voit par exemple les couples qui se mettent ensemble, puis après au bout de 2 ans ou 3 ans ou 5 ans, le nombre qui se sépare, puis après on voit un peu statistiquement, on projette un peu, au bout de 50 ans, on se dit à ce moment-là, il y a 9 couples sur 10, 8 couples sur 10, qui ne finiront pas leur vie ensemble.
On peut le dire positivement. 1 sur 10, peut-être 2, finiront leur vie ensemble.
Alors, voilà. Alors, c'est une situation quand même, vous voyez un peu quand on compare, 8 jeunes ou 9 jeunes sur 10 attendent que vraiment leur projet de vie soit au niveau du couple, de la famille, etc. Tout un projet, c'est la chose la plus importante pour eux. Et à la fois, la réalité, en termes sociologiques, nous projette en disant, eh bien, finalement, c'est quasiment le même nombre, la même proportion, mais qui ne pourront pas réaliser le projet de vie. Donc, c'est une situation qui est assez dramatique. C'est une situation en disant, mais finalement, ce qui est le plus important pour les gens, très majoritairement, eh bien, très majoritairement, ils ne pourront pas le réaliser. Et donc, c'est se dire, mais attends, ça veut dire que le projet de bonheur, de joie pour un homme, une femme, un jeune garçon ou fille, ben finalement ne pourra pas se réaliser. Mais c'est quelque chose qui est une situation qui est quand même assez dramatique. Et que on dit souvent que les jeunes aujourd'hui ne veulent pas se marier, ne veulent pas s'engager, etc. Mais ce n'est pas qu'ils ne veulent pas se marier ou pas s'engager. C'est parce que justement, c'est leur projet de vie. C'est la chose la plus importante. Mais comme effectivement ils se rendent compte consciemment ou inconsciemment que réussir son couple, vivre ensemble heureux, c'est de plus en plus difficile, et que non seulement c'est difficile, mais que finalement pour un couple qui va dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans se séparer, mais ils ne font jamais de gaieté de cœur, c'est quelque chose qui est dramatique, c'est quelque chose qui est très douloureux. Et donc, consciemment ou inconsciemment, les jeunes perçoivent cela. Et donc ils ont peur de s'engager. Pourquoi ils ont peur de s'engager? C'est pas qu'ils ont peur du mariage. C'est qu'ils ont peur de souffrir, qu'à un moment ils ne vont pas pouvoir. Pourquoi ils mettent tant de temps à se décider? C'est que, oh là là, mais si jamais à un moment ça ne marche pas, ça va être tellement douloureux que je ne veux pas souffrir. Et donc finalement, pour ne pas souffrir, bah, j'aime mieux ne pas m'engager. Donc c'est quelque chose qui... C'est un vrai problème. Enfin, c'est un... Comment aider et essayer d'accompagner ceux qui sont engagés dans le mariage ou ceux qui vont s'engager dans le mariage, parce que la situation est quand même très très délicate.
Alors ce qu'on va essayer de partager ce matin avec vous, c'est le cœur de l'analyse de cette situation, c'est-à-dire qu'il faut aller au bout de la vérité et dire quel est le problème fondamental de la vie de couple, quel est l'enjeu fondamental et quel est le remède. Si on est là au nom du Christ, c'est bien parce que justement il est le chemin, la vérité, la vie, mais qu'est-ce que ça veut dire dans une vie de couple? Qu'est-ce que ça veut dire dans une vie de mariage? Et je pense qu'aujourd'hui on est arrivé à un point où justement la situation étant aussi dramatique que ça, on ne peut plus se cacher derrière une sorte, je dirais, de paravent où dès qu'on s'aime, tout va bien. C'est pas vrai. Il y a un vrai travail à faire, il y a un vrai enjeu, et c'est ça qu'il faut qu'on essaye de décrypter avec vous. Sachant aussi que nous ne pouvons pas, nous, chrétiens, et particulièrement ceux qui vivent en couple, rester indifférents à ce qui se vit. On se compare souvent à ceux qui sont sur le Titanic. On voit les couples sombrer autour de nous. Nous, on a les canots de sauvetage et on resterait là les bras croisés en disant « Ah ben mes chéris, vous allez vous noyer, je suis désolée pour vous. » C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. En tant que chrétien, on doit annoncer où sont les bouées de sauvetage, où est le canot de sauvetage et comment trouver une issue à ce désir immense que chacun porte en soi de trouver le bonheur dans l'amour et de trouver la joie profonde dans l'amour et dans le don mutuel l'un à l'autre. Et ça, c'est un chemin dont nous avons, nous, un trésor inestimable qui est justement la vie avec le Christ, et ça, c'est ce qu'on va essayer de partager avec vous. Donc pour ce faire, on va pas vous faire une belle conférence sur des grandes théories, on va essayer de partager des choses qu'on vit nous, des choses qu'on a découvertes à partir de la parole de Dieu, parce que c'est pas notre parole qui compte, c'est celle du Christ. S'appuyer sur la parole, c'est une certitude qu'il y a quelque chose là qui est vrai et qui est le cœur de la révélation chrétienne.
Je crois que la plus grande joie pour un couple, la plus grande joie pour des enfants, c'est que papa et maman s'aiment. Et donc, comme on voit que l'expérience dans la société justement met cet amour tellement à l'épreuve, essayons vraiment de plonger à la racine pour que vraiment cette unité soit sauvegardée, cette joie de s'aimer soit crescendo et non pas décrescendo. Parce que c'est l'aspiration de tous. Croyant ou incroyant. Et que le thème, c'est la joie dans le couple et dans la famille. Et donc, cette joie, elle doit pouvoir perdurer. Et donc, comment ancrer cette joie dans cet amour et dans cette unité? On peut s'appuyer également sur clore un peu cette introduction un peu longue, s'appuyer sur un premier évangile, qui est cet évangile des disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs, on parle de ces deux disciples. Alors nous, on aime beaucoup ces deux disciples, mais on ne dit pas « j'aimais c'est un homme et une femme ». Donc nous, on va dire que c'est un homme et une femme, et que c'est un couple. Et que ce couple, c'est un peu le couple contemporain. C'est un peu chacun de nos couples, c'est un peu tous les couples qui nous entourent. Vous ouvrez une radio, une télé, etc., etc., ça parle de quoi ? Ça parle bien de la politique, etc., etc., mais finalement, le thème fondamental, ça parle de l'amour. Parce que c'est notre problème à tous. Et ça parle, effectivement, alors de manière légère ou pas légère, mais ça parle de sexe, de couple, de machin, etc., etc., voilà. C'est le problème des gens aujourd'hui. Comment s'aimer ? Comment durer dans l'amour ? Et il est dit dans cet évangile des disciples d'Emmaüs, ils quittaient Jérusalem et entre mains ils échangeaient sur les événements. Les événements c'était par rapport au Christ, tous les événements du Christ, enfin de Jésus qui avait été crucifié, etc. Et c'est vraiment aujourd'hui la situation de tous les couples, de la société. La société débat, discute comment s'aimer. Et alors il part complètement sur les chemins de traverse, mais c'est la préoccupation de notre société. Comment s'aimer, comment durer dans l'amour. Et il est dit, à la fin de cet évangile, qu'ils avaient le cœur triste.
À la fin de cet évangile. Bref.
Vas-y. Non, vas-y.
Ils quittaient Jérusalem et ils avaient le cœur triste.
Voilà.
La première partie de l'évangile.
Donc ça veut dire, cette situation rend nos contemporains, rend chacun de nous triste. C'est attristant, c'est douloureux de voir que celui ou celle qu'on aime, qu'on a choisi librement, je veux dire, c'est pas nos parents qui nous ont imposé la personne, on s'est choisi librement, on s'aime profondément, et finalement, on n'arrive pas à s'aimer. Alors, c'est au bout de 3 mois, c'est au bout de 3 ans, c'est au bout de 30 ans, mais on a du mal à s'aimer dans la durée. Pourquoi ? Et c'est vrai que ça nous prend la tête. Et ça prend la tête à notre société, et c'est attristant. Donc il dit attristant, dit là où il n'y a pas de joie. Et il est dit à ce moment-là, il y a cette rencontre avec Jésus, etc., etc. Et lui, il est dit, et lui reprend avec ses disciples, qui ne le reconnaissent pas, mais il reprend tout ce qui le concerne dans les Écritures, etc., etc. Et les disciples sont émerveillés au fur et à mesure de ce que Jésus leur partage. Et puis, à un moment, vous connaissez pour la plupart cette histoire, à la fin ils se retrouvent le soir, ils se retrouvent dans l'auberge, et ils reconnaissent Jésus à la fraction du pain. Et puis ils disparaissent. Jésus disparaît. Et à ce moment-là, ils repartent tout de suite vers Jérusalem. Comme si jamais, vraiment ce qui a été partagé, c'est absolument essentiel. Donc on ne peut pas perdre un instant pour le repartager aux disciples.
Et ils repartent en pleine nuit parce qu'ils sont habités par la lumière. Donc ils peuvent y aller.
Et ce qu'il est dit à ce moment-là, et il se partage en ce moment en chemin, notre cœur n'était-il pas tout brûlant ? Et ça qui est intéressant par rapport à notre thème de la joie, c'est que donc nous avions deux personnes quittant Jérusalem attristées, ils ont rencontré le Christ, qui ne les a pas assommés avec des choses, des grands principes, etc., etc., mais il a parlé de choses essentielles, et qui à ce moment-là, et ça passe à me dire, tiens, c'est intéressant ce qu'il a dit Jésus. Non, ça a transformé profondément leur cœur. Leur tristesse est transformée, pas simplement en joie, plus qu'en joie. Notre cœur n'est-il pas tout brûlant ? On a l'impression qu'il témoigne d'une expérience amoureuse intense, d'une jubilation. Et c'est bien cela qui est notre chemin, pour nous-mêmes et aussi pour nos contemporains, c'est que nous avons à mieux comprendre ce que nous dit le Christ par rapport justement à notre vie amoureuse, à notre vie conjugale, à notre vie familiale, et c'est ça qui est jubilatoire pour nous, mais aussi jubilatoire pour ce monde, parce que ce monde crève de tristesse de faire l'expérience amoureuse qui conduit tellement à l'échec malgré tous les efforts, parce que je pense que croyant ou incroyant, beaucoup font des efforts dans leur vie conjugale, leur vie familiale. Or, ils n'y arrivent pas. Or, à un moment, nous sommes acculés à des échecs, à des incompréhensions, à des difficultés, etc., etc., ce qui crée de la tristesse, de la tension, de la souffrance entre nous, et forcément dans notre famille, etc., etc., vis-à-vis de nos enfants. Et ça, c'est dramatique, et on ne peut pas se satisfaire de la situation. Pas dire, bah oui, bah c'est comme ça, bah, c'est la faiblesse humaine. Non. On est fait pour quelque chose de jubilatoire, pour une vie jubilatoire, pour une intensité de vie et de joie, et on ne peut pas se satisfaire de cette situation aussi triste. Bon, c'était un peu long, mais c'était important.
Donc, Dieu nous a créés pour notre bonheur, on le sait bien, et on va s'appuyer sur la parole de Jésus par rapport à la vie de couple. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il y a un texte très connu sur lequel Jean-Paul II a bâti toute sa catéchèse. Vous savez que Jean-Paul II est le pape dans l'histoire qui a fait la catéchèse la plus longue. Sur quel sujet ? Sur l'amour et la sexualité. Donc, ça a été 5 ans d'audience du mercredi, donc un énorme volume d'enseignement. C'est une catéchèse absolument magistrale qui reprend tout le projet de Dieu sur l'amour humain. Donc, en filigrane, dans tout ce qu'on va dire, on va s'appuyer sur l'enseignement de Jean-Paul II, qui a vraiment été un génie sur la question de la théologie de la famille et de l'amour. Et tout le pivot de l'enseignement de Jean-Paul II, ça s'appuie sur le texte de Matthieu 19, que ce fameux texte où Jésus est interpellé par les pharisiens sur la question du divorce et de la répudiation. Et Jésus, à ce moment-là, dit aux pharisiens, pour leur répondre, à l'origine, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire que Moïse a autorisé la répudiation, etc. Mais à l'origine, il n'en était pas ainsi. Donc il faut qu'on parte de l'origine. Quel était le projet de Dieu à l'origine pour comprendre comment nous, dans notre humanité, nous allons pouvoir vivre notre amour et que cet amour soit un bonheur en crescendo, parce qu'on est fait pour ça. Et pas une catastrophe annoncée, hein, comme ce que dit aujourd'hui les médias, si vous écoutez, etc., sur les questions de « tu te maries ?» Ben écoute, profite-en au début, parce que mon pauvre chéri, ça va pas durer longtemps. Donc prends ton pied, puis après tu vas voir, ça finit très très mal, mais au moins, t'auras eu la bonté d'essayer. Voilà, c'est en général comme ça. On vous regarde avec un air un peu niais, ah bon, tu te maries ? Voilà, mon pauvre, encore un qui va se faire avoir. Mais non, le Seigneur ne nous a pas créés pour ça. Donc, reprenons les choses à la base et repartons de la Genèse.
Alors, très très rapidement, la première des choses, la Genèse 1, ce qu'on peut retenir, c'est que on connaît que l'humain est fait à l'image de Dieu. Mais ce qu'on ne dit pas assez souvent, est-ce qu'on ne relève pas du 27e verset du premier chapitre de la Genèse, c'est que l'image de Dieu est aussi inscrite dans le couple. Ça veut dire que le couple, son image, son modèle, c'est Dieu lui-même. Et Dieu lui-même, il faut bien aussi le voir dans Dieu Trinité, dans Dieu Communion. Et donc nous sommes, notre programme génétique conjugal, c'est la vie divine. Ça veut dire que pour mieux comprendre comment un couple fonctionne, c'est vrai que c'est important de mieux comprendre la relation intime des personnes divines. Et en cela, l'Évangile est extrêmement illustre avec nombre de versets, de paroles de Christ qui parlent de l'intimité de Jésus à la fois avec l'Esprit-Saint et à la fois avec son Père. Donc c'est vraiment notre programme. Et on voit bien dans nombre de textes de l'Évangile combien cette relation entre Jésus et son Père, ou Jésus avec l'Esprit-Saint, est profondément intense. Donc c'est de cet ordre-là. Deuxième point sur lequel on peut s'appuyer, c'est le deuxième chapitre de la Genèse, avec cette rencontre, cette découverte de Ève par Adam. Et qu'est-ce qu'il est dit à ce moment-là ? Quand Adam voit Ève et rencontre Ève, il lui fait une déclaration, plus qu'une déclaration d'amour, c'est vraiment une explosion de joie. Il dit, quand il la découvre, il dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc c'est pas, il a dit, tiens, elle est pas mal celle-là, elle me plaît, elle est intéressante, elle parle bien, elle a des bonnes idées, etc., etc. Non, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort, c'est quelque chose qui est un cri qui vient vraiment des profondeurs. Donc, Adam, en découvrant Ève, et bien sûr c'est partagé et c'est réciproque, il a une intensité, je dirais, une expérience intense de joie et de jubilation dans l'amour. On voit bien que c'est une intensité d'amour, mais qui donne le fruit de la joie. On est bien dans le thème de la joie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le dessein de Dieu, la relation conjugale, la norme pas le but ultime pour les meilleurs et les élites, non. Le programme génétique du couple et l'expérience conjugale, c'est l'intensité jubilatoire de la relation de l'amour. Ceux qui ne sont pas, les couples qui ne sont pas dans cette jubilation, ne sont pas dans le dessein de Dieu. Ils sont appelés tous dans le dessein de Dieu. Mais ça veut dire que la jubilation conjugale, c'est le programme normal que Dieu a mis dans le cœur de l'homme et de la femme. Et cette jubilation est telle, que nous allons l'exprimer, bien sûr dans notre relation amoureuse, mais jusque dans la sexualité, qui est jubilatoire. On ne passe, c'est pas forcément exactement le thème, mais on pourrait l'aborder. Mais c'est pour ça que la sexualité est complètement dans le cœur de la révélation et dans l'appel de Dieu dans le couple. Et c'est pour ça même que Jésus dit, c'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère et ils ne feront qu'une seule chair. Et donc, en 2-3 versets, Jésus réinsiste en disant, c'est la vocation de l'homme et de la femme d'être tellement en communion qu'ils ne font qu'une seule chair. C'est pour ça que Jean-Paul II, petite parenthèse, parlera de la sexualité conjugale comme de la liturgie propre des époux.
La célébration,
la liturgie propre, c'est ce qui lui est spécifique. La célébration spécifique d'un prêtre, c'est de célébrer l'Eucharistie. La célébration spécifique d'un couple, c'est de célébrer leur amour dans la sexualité. C'est extrêmement fort et intense. Mais ce n'est pas tellement le sujet. Mais pour vous dire que combien, je dirais, la révélation chrétienne est puissante et là aussi jubilatoire.
Ce qu'on peut préciser aussi, si tu me permets de reprendre ça sur Genèse 1 et 2, c'est important de le dire, c'est qu'en fait, le masculin et le féminin, qui sont les opposés les plus extrêmes, hein, pas besoin des psychologues pour le savoir, l'union de ces différences est visage de Dieu. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on unit des différences aussi extrêmes que l'homme et la femme, ça ne peut être que signe de Dieu, parce que l'inverse de Dieu, c'est le diviseur, c'est le malin, c'est le séparateur. Alors que Dieu crée la communion dans la différence. Donc plus on est différent et plus on arrive à vivre en communion, plus on manifeste l'existence même de Dieu. C'est comme ça que nos enfants disaient toujours, papa et maman, de toute façon, vous êtes la preuve de l'existence de Dieu parce que c'est un miracle permanent que vous soyez ensemble. Au moins, ils ont vu pendant 20 ans de leur vie un miracle permanent. Voilà, c'est ça l'amour, c'est unir la différence la plus extrême. Donc à chaque fois qu'un homme et une femme s'aiment en Christ, en Dieu, et que l'union des contraires est manifestée, il y a épiphanie divine, il y a manifestation de Dieu, parce que ça ne peut être que le visage de Dieu, l'union dans la différence. Donc c'est extraordinaire, ça veut dire que nous avons comme mission de manifester le visage de Dieu. Manifester l'amour, c'est quand même incroyable. Quand on dit à un enfant, c'est quoi l'amour pour toi? Ben, il dit, c'est papa et maman qui s'aiment. C'est évident. Donc si un enfant le sait, ça veut dire que toute personne qui voit un couple s'aimer voit quelque part le visage de Dieu. Voilà. Voilà notre mission. Elle est immense. Une des missions, parce qu'on pourrait évidemment déployer ça. Mais c'est intéressant de voir que justement, cet appel à la communion dans la différence fait partie de notre mission, parce qu'elle est signe de la présence de Dieu. Alors maintenant,
j'ai parlé
de
Genèse 1, Genèse 2.
Voilà, les choses se gâtent en Genèse 3. Bon, prendre le temps, parce qu'on pourrait passer des heures sur la Genèse, c'est passionnant, mais retenir trois choses importantes. Qu'est-ce qui s'est passé à Genèse 3 qui a fait finalement la catastrophe dans nos vies? Alors on va simplement aller au bout du processus. Une fois que le péché a été commis, c'est-à-dire que l'homme et la femme ont voulu eux-mêmes choisir leur chemin plutôt que laisser le Seigneur les guider, il arrive trois conséquences dont toute personne va souffrir, trois blessures qu'on appelle les trois blessures ontologiques. C'est-à-dire, de façon existentielle, quelle que soit la personne que vous preniez dans le monde, quelle que soit sa culture, elle va souffrir de ces trois blessures. La première blessure, c'est la rupture de l'unité entre moi-même et moi-même. Je ne sais plus qui je suis, donc je ne m'aime pas et je trouve que je suis vraiment nulle, lamentable, catastrophique, épouvantable. Les adolescents sont très très symptomatiques là-dessus. Ils ont un bouton ici, ça prend tout d'un coup une proportion épouvantable. Donc nous, on le vit intérieurement. Eux, ils ont le mérite de nous l'exprimer à l'extérieur. Mais voilà, une incapacité à être en harmonie avec moi-même, donc à être en harmonie entre mon corps et mon être, être en harmonie avec ce que je suis, donc d'où tous les développements de stages, de développement personnel, d'énéagramme, de machin, de tout ce que vous voulez, pour savoir qui je suis, parce que finalement je ne sais même plus qui je suis. Donc première division, première souffrance.
Je me réconcilie avec moi-même.
Voilà. Et donc, à l'intérieur de cette souffrance, toute personne que vous allez rencontrer va souffrir d'une solitude existentielle qui fait partie de son être. Je ne me sens pas rejoint par l'amour des autres, je suis seule.
Deuxième blessure, c'est la blessure dans la relation à l'autre. Donc j'essaye d'aimer l'autre. Et je fais l'expérience, sans doute comme beaucoup d'entre vous, que malgré toute ma bonne volonté, tout mon amour, ma générosité, je vais terriblement blesser l'autre alors que j'ai décidé de l'aimer. C'est quand même un paradoxe incroyable. Et tout le monde fait l'expérience d'une phrase qui était dans votre bouche un compliment et qui finit par être un scud épouvantable pour l'autre, pour une raison plus ou moins complexe, mais en attendant, ça fait partie de notre expérience humaine. Donc, le bien que je voudrais faire, je n'arrive pas à le faire, dit saint Paul. Et le mal, que je voudrais faire, éviter, je le fais quand même. Voilà. Donc, je fais l'expérience que je n'arrive pas à aimer. Et dans l'autre sens aussi, je ne me sens pas aimée par l'autre.
Si vous permettez, Madame Loriot-Prévost.
Oui, Monsieur Loriot-Prévost, je vous en prie.
Paul dit, je découvre une loi en mes membres. Très importante, ça c'est une loi, ça veut dire que, comme on a dit, l'aspect génétique par rapport au dessein auquel nous sommes appelés, c'est génétique, j'ai deux bras, j'ai deux mains, voilà, c'est en moi, voilà ce à quoi je suis appelé. De la même manière, cette expérience fondamentale du péché originel a inscrit en nous une loi. Une loi, c'est-à-dire aussi un programme génétique qui fait qu'à un moment, j'aimerais faire le bien, je n'arrive pas. Voilà, c'est comme ça. Et c'est révoltant, mais c'est comme ça. Et si jamais je ne l'accueille pas comme une loi fondamentale de ma vie, je vais avoir beaucoup de problèmes dans ma vie. Parce que s'il y a quelque chose qui vaut bien d'abord que j'accepte, c'est qu'à un moment, c'est comme je suis fait. Que je comprenne comment je suis fait.
Troisième blessure. La plus grave, c'est celle qui va couper ma relation avec Dieu, avec mon Créateur, mon Père. Je devrais me précipiter dans ses bras avec une confiance infinie. Mais au lieu de ça, je vais commencer à me faire toutes sortes de films sur un espèce de Dieu qui me surveille, qui va m'envoyer des pénitences, qui va siffler les lignes jaunes, enfin bref, un espèce de père fouettard dont personne n'a envie de tomber amoureux, effectivement, et qui n'est pas du tout le Dieu de la Révélation, qui n'est pas du tout le Dieu de Jésus-Christ, qui est un espèce d'imaginaire qu'on se fabrique. Donc on a réussi à couper la relation entre nous-mêmes et Dieu. Donc toutes les dimensions de notre être sont touchées, on pourrait les développer évidemment parce que ça a beaucoup beaucoup d'incidence, mais en tout cas au niveau de la relation conjugale, ce qu'il faut comprendre c'est qu'on arrive dans un état de catastrophe où on a ce que disent les pères de l'Église, deux natures en nous, la nature bénie à l'origine qui elle est faite pour ce bonheur et programmée pour l'amour, et puis par-dessus une nature pécheresse, déchue qui elle nous en tient, nous tient et nous blesse et nous empêche de vivre cette nature-là. Et donc la tension entre ces deux natures va faire justement ce qu'on appelle le combat spirituel, c'est-à-dire tout ce travail pour comment je fais sortir la nature ontologique bénie et puis comment je sors de cette blessure que je me traîne et sur lequel en général la famille, l'histoire rajoutent des casseroles et des casseroles et puis on finit par avoir des poids terribles qu'on traîne de partout quoi, et qui nous rendent incapables, dans une incapacité d'aimer. Et c'est surtout ça qui est important, c'est de prendre conscience qu'il y a une réelle incapacité. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Oui, alors on va reprendre l'évangile toujours pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe en nous, parce qu'on est vraiment mal foutu. C'est de reprendre les trois versets dans Matthieu 19, toujours dans cette discussion de Jésus avec les pharisiens. À un moment, les pharisiens disparaissent de la scène, et c'est que Jésus qui parle avec les apôtres. Ah, c'est vachement intéressant parce que quand Jésus dit, mais pour comprendre le couple, etc., etc., il faut revenir aux origines, avant les apôtres disaient à Jésus, mais attends, t'y es pas là, si jamais c'est vraiment ça le programme, mais vaut mieux pas se marier. Donc il y a de dire, mais écoute, c'est irréalisable ce que tu dis.
T'es fada,
t'es complètement péché. Voilà. Et Jésus, alors c'est ça qui est très mystérieux, d'abord, c'est les apôtres qui lui disent, mais t'es fracassé, c'est pas possible. Et Jésus, dans sa réponse, ne les conteste pas. Il dit, vous avez raison. C'est plein d'espoir. Et il a dit, vous avez raison, c'est vrai, sauf pour ceux à qui c'est donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au travers de cette réponse, Jésus dit, vous êtes tous faits pour le programme inscrit depuis les origines, mais effectivement votre péché vous a fracassé. Et que malgré toute l'énergie que vous mettez pour essayer de réaliser ce bonheur conjugal et cette relation conjugale, etc., vous n'y arrivez pas. Sauf si jamais ça vous est donné. Ce don, c'est qui? Eh bien, c'est lui. Et c'est tout le cœur de la révélation par rapport au mariage. C'est que Jésus dit, si vous m'accueillez, si vous m'accueillez comme don dans vos vies, alors ce qui effectivement c'est le programme, mais vous n'avez pas accès à ce programme, mais si vous m'accueillez, vous y aurez accès. Et c'est ça qui est le cœur de la bonne nouvelle par rapport à la vie conjugale, c'est qu'effectivement, ah oui, j'arrive pas de moi-même, malgré tous les atouts, vous ne la connaissez pas beaucoup, mais elle a vraiment des atouts extraordinaires, Maud. Hein, bon. Mais malgré ça, je n'arrive pas à l'aimer. Bon, je suis spécial un peu, c'est vrai aussi, c'est vrai. Mais voilà. Mais si jamais j'essaye d'accueillir le Christ, et bien à ce moment-là, je vais pouvoir rentrer beaucoup plus dans cet amour-là. Parce qu'à un moment, je vais pouvoir pardonner, je vais pouvoir avancer, je vais pouvoir dépasser mes blessures, travailler à la guérison de mes blessures, pour que justement cet amour auquel nous sommes invités, il soit accessible. Et que cette joie, cette intensité d'amour dans lequel j'exulte, dans lequel nous sommes invités, cette exultation, je puisse dire tous les jours, 27, ça dure depuis 27 ans, que je puisse dire tous les jours, mais tu es la joie de ma vie, tu es l'exultation de mon cœur, etc. Il faut que je le dise tous les jours. Bah, tous les jours, c'est pas facile, hein. Surtout le matin, quand on a la bouche pâteuse, machin, etc., etc., ou quoi, après une journée de fatigue et tout, vraiment, l'autre, on peut plus le voir en peinture. Donc humainement, c'est pas réalisable. Eh bien, voilà, le Seigneur dit, ben écoute, c'est vrai, tu n'y arrives pas, mais moi je veux t'accompagner là-dedans. Et c'est ça où, c'est là où, c'est le cœur de la révélation. Et c'est le cœur de la bonne nouvelle. Et on est au cœur du thème qui est le nôtre. Le thème, c'est le nôtre, c'est comment faire naître la joie et durablement dans mon couple, dans ma famille. Parce qu'on fait tous l'expérience, malgré aussi géniaux que vous soyez, que nous soyons, mais malgré ça, on fait tous l'expérience qu'on n'y arrive pas. Et donc Jésus nous dit, mais ce que tu n'as pas réussi à faire, ensemble, va réussir à le faire. C'est ça qui est une excellente bonne nouvelle. C'est que en accueillant le Christ, et c'est tout le sens du sacrement de mariage, c'est tout le sens de la foi, d'accueillir le Christ au cœur de sa vie, c'est véritablement libératoire par rapport au dessein qui est le nôtre de nous aimer et de réaliser une relation jubilatoire, et qui ne soit pas simplement pour la nuit de noces, qui ne soit pas simplement pour une patience et facile, ça, hein, d'être amoureux 3 jours, 1 semaine, 10 jours, l'intensité où ça bouillonne tout seul, là, vous savez ce que je veux dire, hein, c'est ça flambe de partout, là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est de l'inscrire dans la durée. C'est notre problème. Et on fait tous, en tant que couple, cette expérience délicate, que c'est difficile de nourrir l'amour et de grandir dans cet amour. Mon amour, tu me regardes de manière émerveillée. C'est, oui, c'est vraiment tué.
C'est très intéressant ce que tu dis. J'aime bien. Donc, on va s'appuyer sur un autre texte qui va éclairer aussi cette expérience-là, un texte qu'on aime beaucoup, qui est le texte de la Samaritaine, que vous connaissez bien. Donc, cette Samaritaine qui est assise auprès du puits, le puits dans la Bible, c'est le symbole de l'amour qui vient du cœur de la femme. Il y a tout le puits de Jacob auquel se sont rencontrés tous les patriarches. Et on arrive donc à la Samaritaine avec Jésus. Et cette histoire de soif, bon, c'est très amusant parce qu'elle, elle part sur une discussion qui semble avoir rien à voir avec la choucroute, mais en fait, non, on est bien au cœur du problème. Le cœur du problème, c'est quoi? C'est que cette femme-là, elle a soif. Et elle a tellement soif d'amour qu'elle en est au septième.
Sixième
mari, parce que c'est le Christ qui sera le septième. Donc, l'époux, avec un grand E. Mais en attendant, elle est passée d'homme en homme parce qu'elle cherchait l'amour. Parce qu'elle avait besoin d'être aimée, qu'elle avait besoin d'être rejointe dans son désir d'être aimée et d'aimer. Et ça, toutes les Samaritaines du monde, elles sont autour de nous tous les jours. Et nous sommes, nous aussi, des Samaritaines. Nous avons besoin d'un amour.
Les Samaritaines aussi, hein.
Oui, on peut le dire en masculin. Voilà.
Il faut dire largement.
Surtout pour les hommes.
Ah non, ça c'est trop. Là. Surtout.
Là, c'était trop. Bon. Donc l'un et l'autre, nous avons besoin d'être comblés par l'amour, pas simplement un petit amour de pacotille. Et on a un cœur qui est fait pour un amour de géant. On n'a pas un cœur qui est fait pour un petit amour de pacotille. Donc on a soif. Et plus on cherche dans un amour qui ne rassasie pas, et plus on court après, et on rentre dans les expériences, je dirais, de type addictif. Il peut y avoir une addiction aux relations affectives. Il y a une addiction au sexe, parce qu'on cherche. Et que plus on cherche, plus on essaye, moins on trouve, et plus on cherche.
Donc on rentre dans une espèce de système qui n'a pas de fin. Et la Samaritaine, elle est dans cet état-là quand Jésus la croise. Elle est dans une soif d'amour grande comme ça. Et comme elle ne trouve pas celui qui comble son cœur, eh ben elle passe d'homme en homme. Mais sauf qu'à un moment, l'homme, aussi génial soit-il, il finit toujours un jour ou l'autre par vous décevoir. C'est pareil pour moi, hein, rassure-toi mon amour. J'ai beau être génial, je te déçois certainement. Donc si je fais de mon conjoint mon
Dieu... C'est bien d'être lucide quand même.
Voilà. Si je fais de mon conjoint mon Dieu, j'ai quand même relativement peu de chances d'être satisfaite au bout de quelques temps. Ça va assez vite en général. Donc parfois, il peut y avoir une petite illusion. Au moins pour nous, ça a été clair. Avant même notre mariage, on savait que notre conjoint ne serait pas notre Dieu, l'un et l'autre. On a trop de caractère pour ça. Donc au moins, on n'a pas eu l'illusion de le croire. Mais il y en a qui rentrent dans cette illusion-là. Donc voilà, essayez de trouver quel est celui qui va répondre à cette soif. Et c'est le Christ qui dit, si tu t'abreuves à mon puits, si tu viens te nourrir de mon eau, tu n'auras plus soif. Et quand on a compris que l'amour qu'on cherche, on le trouve dans le cœur du Père, que c'est l'amour du Christ qui nous remplit et qui nous rend capable d'aimer l'autre, et que c'est lui qui nous comble et qui va nous dépasser, sublimer nos capacités d'aimer, et qu'à chaque fois qu'on ne pourra pas, c'est son amour qui va nous permettre de le faire, c'est ça qui va transformer nos vies et qui va faire qu'enfin nous sommes rassasiés et qu'enfin notre amour de couple va trouver sa juste place, sa juste équilibre. La façon de le vivre, ça va être en s'accrochant au basque de Jésus. Je ne sais pas si vous voyez cette magnifique icône de la résurrection, on voit le Christ qui agrippe Adam et Ève, il les agrippe tellement qu'ils ont leur poignet pendant comme ça, c'est Jésus qui les prend, c'est même pas eux qui tiennent le Christ. Et il les sort des enfers. Et il les sort, c'est-à-dire que cette œuvre de résurrection de Christ, elle se produit dans nos amours de couple. On va voir après comment. Mais elle peut se produire. Et c'est cette résurrection de Christ qui nous rend capables de vivre un bonheur en crescendo.
Alors, c'est vrai que... Ok, on comprend l'œuvre du Christ, on comprend sa parole, on comprend ce à quoi il nous invite, mais comment faire? Et c'est là où... Je crois que c'est vraiment très important d'entendre, appliquer au couple la discussion de Jésus avec Nicodème. Où Nicodème pose la question, comment naître de nouveau? Donc, comment faire naître mon amour conjugal? Comment faire renaître mon amour conjugal? Soit parce que je suis marié depuis trois mois, ou je ne suis même pas marié, je vais en couple, etc. Mais je me rends compte que c'est en train de mal évoluer, ou au bout de 40 ans ou de 50 ans de mariage. Parce qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de... Comment naître de nouveau? Et Jésus a une parole très claire auprès de Nicodème. Pour naître de nouveau, il faut naître et de l'eau et de l'esprit. Et donc, et de l'eau et de l'esprit, ça veut dire qu'il faut les deux pour pouvoir renaître. Pas simplement de l'un ou de l'autre. Et l'eau, c'est quoi? Ben, l'eau, ça fait appel à toute la démarche sacramentelle au niveau de la foi. Et tout l'aspect baptismal. C'est pour ça que le baptême est le salut qui est donné à la personne. Et Jean-Paul II va parler du sacrement de mariage comme du baptême donné au couple. C'est-à-dire que Jésus vient vraiment donner le salut. Il vient nous sauver. Sauver, ce n'est pas une doctrine théorique qui a 2000 ans et qui ne veut rien dire aujourd'hui. C'est que vraiment, il vient nous sauver. Il vient sauver comme quelqu'un qui se noie et qui nous sort de l'eau. C'est-à-dire que j'étais en danger de mort et il me sort de l'eau. Donc, il faut avoir foi que Jésus est le sauveur de nos couples. Ça, c'est le premier aspect. Mais la deuxième chose, c'est qu'il faut vivre et de l'eau et de l'esprit. Et qu'il y a énormément de nos couples où, on s'est marié à l'église, on s'est marié dans l'église, on a le tampon, on a le machin, on a le truc canonique et tout, mais c'est mort. Mais le sacrement ne sert à rien. C'est pas que la grâce n'est pas là. C'est que, comme le dit le Concile, la grâce est inopérante. Pourquoi elle est inopérante? Parce que l'Esprit Saint n'habite pas le cœur des personnes qui ont reçu le sacrement. Donc, c'est comme une. Vous avez une graine qui est en terre, voilà, c'est ça, mais comme vous n'arrosez pas, ça reste, voilà, ça peut durer des années comme ça. Elle est là, mais ça ne bouge pas. Et effectivement, à ce moment-là, on va dire, les chrétiens, ils divorcent quasiment autant que les autres, oui. Si jamais c'est ça, oui. Parce que de toute façon, la grâce est inopérante. La naissance, c'est vivre, et de l'eau et de l'esprit. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment vivre de l'Esprit Saint. Comme dit Séraphine de Sarov, un grand saint contemporain de Russie et de l'Orient, de l'orthodoxie, dit le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. C'est d'accueillir et de vivre avec le Saint-Esprit au quotidien, au plus quotidien. De vivre dans cette intimité, cette proximité. Jésus, il est vivant et on ne vit pas. Il est vivant, ça veut dire aujourd'hui, à l'instant, il est vivant, il est avec nous. Et il nous envoie son Esprit Saint. Il s'est retiré, mais voilà, il faut que je vous envoie le paraclet pour continuer mon œuvre. Et donc, cette intimité, cette vie avec lui au quotidien, dans cette proximité, plus grande proximité que Maud est proche de moi ou que je suis proche de Maud. L'Esprit Saint est encore plus proche que notre propre conjoint. Et c'est cette vie avec lui qui fait qu'à un moment, alors la foi que nous mettons dans le Christ, qui peut vraiment nous sauver, va vraiment concrètement fructifier dans nos vies. Et c'est là où nous pouvons à ce moment-là vivre un amour qui est en crescendo. C'est une manière, mon amour, d'introduire l'évangile suivant.
Cana. Donc l'évangile suivant, c'est les noces de Cana, que vous connaissez, qui est un très très beau texte. Et il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire de ce texte, mais on va retenir une certitude. Le Christ inverse la loi du monde. La loi du monde, c'est quoi? C'est la loi du plaisir. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, je prends mon pied au début, puis après, ça va décrincher un deux jusqu'au moment où je ne vis plus rien. Ciao, je refais ma vie de couple ailleurs. Projection des sociologues, durée de vie moyenne en Europe. Ce n'est pas une projection, c'est une réalité. Aujourd'hui, statistique, 10 ans. La vie de couple, 10 ans. Donc il y a un marchand de matelas qui a fait sa pub, changer de matelas, changer de conjoint, changer de matelas. Parce qu'il paraît que c'est 10 ans la durée de vie d'un matelas. Je ne savais pas. Je l'ai appris comme ça. Donc c'est très charmant. Donc vous trouvez un certain nombre de pubs. La voiture qui est plus fidèle que vos conjoints ou je ne sais pas quoi. On a vu ça il n'y a pas très très longtemps. Bref. Donc ça veut dire quoi? La loi du monde, c'est au début l'amour est immédiat, évident, c'est les pubs, c'est le cinéma. À chaque fois que je la vois, mon cœur, machin, à chaque fois que je le vois, extraordinaire. Bon, c'est les ralentis, on court les bras dans les bras de l'autre, enfin, c'est merveilleux, quoi. Et puis, au fur et à mesure, eh ben, ça devient un moins bon vin, puis ça peut terminer en étant de la vraie piquette, et puis finalement, il n'y a plus que la flotte. Donc, quand il n'y a plus de flotte, on dit, ben, je l'aime plus, donc je m'en vais. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose de rentrer dans une autre logique. Remplissez d'eau ces jarres. Ces jarres, ce sont des jarres de purification. Donc les pères de l'Église ont bien vu dans les 7 jarres la prière, la pénitence, le jeûne, etc. Bon, enfin, il y a toute une pédagogie, je dirais, spirituelle pour remplir d'eau nos jarres. C'est-à-dire faire ce travail d'humilité, de conversion, de dire au Seigneur, on va... Voilà, il n'y a plus que de l'eau dans notre amour, mais je te présente mon eau et je vais jusqu'au bout de ma bonne volonté et je te demande d'intervenir. Et là, le Christ change l'eau en vin, un vin meilleur qu'au début. Donc, ça veut dire, ce vin est tellement bon que le responsable de la noce dit, mais qu'est-ce que tu fais là? D'habitude, quand les gens sont un peu sous, quoi, on met du mauvais vin, personne n'y voit rien. Et toi, tu mets du meilleur vin à la fin. Parce que c'est ça l'amour en Christ. Plus on avance, plus on s'aime. Et plus l'amour est intense, et plus la communion est belle. Et plus on se comprend, et plus on est complice. Et on est loin des combats des premières années. Parce qu'on a réussi à vivre ces manifestations de Cana dans notre vie régulièrement. Et que le Christ lui-même a transformé notre amour, et lui-même a effectué ce miracle de Cana, jour après jour. Pour que le matin, on puisse, Alex, se lever en disant « J'exulte, Seigneur, pour ce conjoint que tu m'as donné. » Parce que, voilà, je suis devenue... Moi-même, j'assiste à ce miracle de Cana dans ma vie, où notre amour, qu'on croyait impossible, le nombre de fois où ça nous est arrivé de dire « Seigneur, mais on n'y arrive pas, on ne peut plus. Maintenant, fais quelque chose. » Et c'est là qu'il intervient. Donc, c'est dans notre pauvreté... énorme, immense, notre incapacité reconnue à genoux ensemble, Seigneur, maintenant, au nom du sacrement de mariage, effectue le miracle de Cana. Et le Seigneur le fait. C'est incroyable, mais il faut le vivre pour le dire, et je crois que c'est aussi l'objectif de tous les couples chrétiens, c'est de témoigner de ça. Nous ne sommes pas des héros. Nous ne sommes pas des gens extraordinaires pour lesquels tout est facile. Non. Comme les autres, nous vivons des souffrances intenses, nous traversons des épreuves difficiles, nous n'arrivons plus à nous comprendre, nous butons sur des communications impossibles, des maladresses pas possibles. Mais la seule différence, c'est que nous, on sait qu'on est nul. On sait qu'on est handicapé de l'amour, on sait qu'on est faible, mais on sait que le Christ peut tout pour nous si nous avons la foi. Que le Christ peut faire ce qui est écrit dans la Bible, c'est clair. À l'homme, c'est impossible, mais à Dieu, ça n'allait pas. Rien n'est impossible à Dieu. Et en particulier, ressusciter en amour. Ce n'est pas impossible à Dieu. Ce qui dépend, c'est notre attitude de cœur. Mais le Christ peut effectuer sa résurrection dans nos vies. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'amour. Et c'est ça le trésor qui fait que nous, couples chrétiens, avons cette grâce extraordinaire de pouvoir demander au Christ « Effectue le miracle de Cana dans ma vie, là, maintenant, aujourd'hui, pour que je puisse l'aimer et rayonner de ta joie et être visage de Dieu pour le monde. »
Vous comprenez que on essaye vraiment d'aller avec vous, d'aller à la source de la source de la source du problème qui nous est posé, de la joie. Ce que nous voulons, c'est faire fructifier la joie puissante dans notre relation conjugale et dans notre famille pour nos enfants. Et donc pour ça, on ne veut pas faire les choses simplement, on veut aller au cœur du problème. Et Jésus nous mène au cœur du problème. Et que c'est parce que nous allons vraiment essayer de réaliser le miracle de Cana, où le vin, c'est plus on avance, plus tu vas goûter un vin meilleur, plus on va dilater la joie, concrètement incarner cette joie de notre vie conjugale et familiale. Et plus ça va être une expérience de bénédiction pour nos enfants. Vous comprenez que tout cela, tous les parents du monde, ils feraient tout et n'importe quoi, enfin quasiment tous les parents du monde, tout et n'importe quoi pour leurs enfants. Ce qui est le plus important, c'est le bonheur de leurs enfants. À la rigueur, leur couple, ils n'y croient plus, mais pour leurs enfants, ils y croient. C'est vrai. Beaucoup de parents, c'est quelque chose qui prend complètement les tripes. Et bien, le plus beau cadeau que tu peux faire à tes enfants, c'est que papa et maman s'aiment. C'est difficile de l'entendre, parce qu'on se rend compte là, mais c'est ça le plus beau cadeau que je peux faire, cher. C'est la chose la plus difficile de ma vie. C'est la chose la plus difficile pour nous tous, c'est la chose la plus difficile. Mais c'est le cadeau que je peux faire à mes enfants. Pourquoi ? Parce que si j'aimais un enfant, mon enfant est là, c'est qu'à un moment on s'est aimé. Entre papa et maman. Sinon il ne serait pas là. Donc si papa et maman se séparent, bah, c'est moi qui me sépare, dit l'enfant. Donc c'est fondamental, existentiel pour un enfant que papa et maman s'aiment. Et voilà, et donc il faut demander beaucoup la miséricorde de Dieu, etc. etc. Donc c'est sur ce thème-là, comment construire notre bonheur, notre joie dans la durée pour nos enfants. Et bien puisons dans la découverte du Christ, on n'est pas dans la question de la pratique religieuse, ça bien sûr que c'est important, mais ça c'est les conséquences. La question c'est allons au cœur de l'expérience chrétienne, d'accueillir vraiment et de vivre avec cette intimité avec le Christ qui va transformer, qui va faire qu'on va plonger les racines, qu'on va s'appuyer vraiment sur du dur, qu'on va construire notre maison conjugale sur du roc et non pas sur du sable. Comme on voit qu'il y a tellement de maisons conjugales qui explosent et qui sont, dès qu'il y a une tempête, etc., etc., c'est circulé, il n'y a plus rien à voir. Parce que les pitons, les piliers, les fondations n'ont pas été vraiment fondés sur le Christ. Et tout ça, c'est pas simplement pour rajouter des couples chrétiens dans l'Église. Ce n'est que pour le bonheur, que pour la joie à cultiver dans notre couple et pour nos enfants. C'est pour ça que nous n'avons pas d'inquiétude sur le développement de la bonne nouvelle du Christ pour le mariage aujourd'hui. Parce que la situation devient dramatique à un niveau conjugal et familial. Dramatique. Et donc, on a comme ça, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, on était à une session dans un monastère qui était un peu touristique, et on était avec une trentaine de couples qui étaient là. Puis il y a des gens, il y a plusieurs couples qui viennent nous voir, jeunes couples de 30 ans, etc. Ils nous disent, qui êtes-vous ? Alors, on se présente, etc., etc. Mais vous semblez rayonnant et tout, mais c'est... Ah ben, écoutez, je sais pas, il y a des couples de chrétiens qui sont là. Mais nous, on a envie d'être heureux comme ça en couple, etc. Vous êtes chrétien ? Est-ce que vous croyez que la foi, c'est le chemin du bonheur conjugal ? Je dis, oui, ça c'est sûr. Écoutez, nous, on n'est pas chrétiens, on est baptisés, on a tout fait, comme on dit. On a tout fait, mais si vous pensez vraiment que c'est ça qui est important, alors à ce moment-là, on veut bien, essayer de voir comment on peut accueillir la foi et vivre la foi dans notre couple. C'est intéressant. Les gens, ils s'en foutent de la foi. La grande majorité de nos comprend. Ils s'en foutent, c'est pas leur problème. Par contre, le bonheur, c'est vraiment vachement important pour eux. Et le travail de la mission nous a fait bien rendre compte aujourd'hui que pour la grande majorité des gens, c'est d'abord Jésus pour moi, puis après on verra pour Jésus pour les autres. Jésus, qu'est-ce qui peut changer dans ma vie? Notre démarche missionnaire, notre démarche de mission et de témoin en tant que chrétien, c'est d'abord, et pour les couples, c'est qu'est-ce que Jésus peut faire pour mon couple? Ben, il peut faire énormément. Pas simple, voilà.
Il y avait au Festival de Cannes, comment il s'appelle le gars qui s'occupait de la...
Le président du festival.
Le président du festival il y a 3-4 ans, qui a été interviewé par un journaliste sur les films et tout ça, enfin bref. Et il a dit un truc tellement incroyable, le journaliste allait faire répéter deux fois. Il a dit, de toute façon, la plus grande aventure aujourd'hui, c'est pas d'aller au bout de l'Himalaya, au fond des fosses, machin, on est allé partout. La plus grande aventure, c'est de réussir son couple avec la même femme ou avec le même homme toute la vie. C'est ça l'aventure d'une vie. Et c'est ça qui vaut la peine d'être vécu. Alors, le journaliste lui dit, mais vous foutez de moi à dire ça. Et il a répété, il a dit, non, regardez autour de vous. Quelle est la plus grande aventure d'aujourd'hui? Que votre amour tienne et que vous soyez heureux en couple. Et ben, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'est la parole, entre guillemets, d'un païen qui sait que l'essentiel de la vie, c'est ça. C'est quand on se retourne sur sa vie et qu'on est à l'aube du grand départ, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qu'on a construit dans notre amour? L'amour d'un couple, c'est tellement précieux qu'il y a des moments, quand on voit des gens qui se fritent, des couples qui se séparent pour des trucs stupides, on a envie de leur dire, mais attendez, ça vaut pas la chandelle. C'est tellement important de garder votre couple. Il vaut mieux mettre un mouchoir sur votre orgueil que de ne pas rester ensemble. Il faut tout faire pour ça. Et ça, c'est le génie d'Alpha Couple, elle et lui, tout ça, qui se lance partout dans le monde. C'est quoi? C'est de dire, prenez du temps pour votre couple, construisez votre amour, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Vous investissez pour votre boulot, pour les études de vos enfants, pour le sport, pour machin, et votre couple? Vous faites quoi pour votre couple? C'est premier. Donc si c'est premier, mettez-le en premier dans vos emplois du temps. Mettez-le en premier dans votre attention. Et c'est pas parce qu'on s'est aimé un jour, entre guillemets, spontanément, que nous n'avons pas à nourrir cet amour-là. Que nous n'avons pas à le prendre, à le soigner comme le bien le plus précieux que le Seigneur nous ait donné. C'est ce qu'il nous a confié de plus beau. Nos enfants, il nous les confie pour qu'ils s'en aillent. Mais notre conjoint, il nous confie pour qu'on vieillisse ensemble. Et si possible, qu'on soit chacun la porte étroite, comme disent les orientaux, c'est-à-dire la porte du martyr à coup d'épingle. Ah, c'est que le mariage, c'est un martyr à coup d'épingle, paraît-il. Hein,
la championne, voilà. La championne. C'est voilà. Vraiment... C'est...
Je m'y emploie, effectivement.
Expert. Un jour, si vous avez besoin...
Mais c'est réciproque, il n'y a pas de problème.
Voilà, écoutez, il est 10h05, on avait plein de choses à vous dire, vous a dit que la moitié, mais on va respecter le programme. Que Dieu soit béni et vous bénisse en toutes choses. Amen.
Amen.
J'ai dit qu'on avait très bien compris que c'était pas sur Maud et Alex qu'il fallait qu'on s'appuyait, mais sur la parole de Dieu. Qu'il fallait vraiment faire confiance à ce qu'ils ont dit, parce que c'est à travers eux que Dieu a, il s'est servi d'eux, hein, pour nous ce matin. Et j'avais envie de dire qu'il y avait la possibilité de se procurer tout ce qui a été dit ce matin. En vous inscrivant quelque part, je ne sais pas, peut-être avec François ou avec vous-même ou à l'accueil, hein, il y a un CD qui va être vendu, du coup. Hein. Voilà, c'est bien. Je pense qu'il faut le prendre, achetez-le ce CD, parce que, pas pour faire une pub, mais parce que c'est tellement nourrissant et c'est dommage qu'ils n'ont parlé qu'une heure. Vous reviendrez? Non, cet après-midi, à Jubilé pour la jeunesse. Alors, allez-y, parce que c'est un régal. Encore merci.
Juste un petit mot pour ceux qui veulent aussi continuer un peu à approfondir différents thèmes. On vous renvoie sur le site L'Évangile pour le couple, où vous avez les 80 émissions qu'on a enregistrées pour Radio Notre-Dame, donc sur les différents thèmes. Donc si vous voulez avancer, c'est gratuit, vous pouvez télécharger, écouter directement, télécharger en MP3, etc. Voilà. Voilà. Donc voilà, L'Évangile pour le couple.fr. ou .com, je ne sais plus. Voilà. Et on doit avoir quelques tracts dans la voiture. Voilà.